Je vais donner le titre « En vérité, en vérité ». Pour ceux qui lisent leur Bible, et je sais que vous êtes nombreux, vous avez certainement dû vous rendre compte que pas mal de fois, il y a Jésus qui dit « En vérité, en vérité ». En vérité, en vérité, je vous le dis. Eh bien, vous savez que le « en vérité » qui est là, quand on prend l'hébreu, ou le grec plutôt, c'est un mot qui est universel, « en vérité ». Et je pense que vous le connaissez tous, c'est le mot « amen ». Eh ouais, c'est le mot « amen ». Et il faut savoir que le mot « amen » est devenu un mot universel. Universel. Ça a été un mot qui était d'abord hébreu, il est devenu un mot grec, et puis latin, et puis après français, anglais, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est un mot qui est universel, amen. Et c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui prie dans l'église et qu'à la fin, on termine cette prière, et normalement, on ne devrait pas avoir un amen de fermeture, parce qu'une prière, c'est toujours une prière d'ouverture. Eh bien, on a amen, amen, en vérité. Moi, je consens à ça. Je consens à ça. Et donc, Jésus dit amen, amen. Je vais vous dire quelque chose, en vérité, en vérité. Et c'est quelque chose qui est fort pour Jésus. Il a envie vraiment de nous dire des choses fortes. Et ce matin, si on prend ma première dia, j'ai pris deux versets qui sont là. C'est Jean 8, 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et il me semble qu'on l'a entendu ce matin dans la louange. Comme quoi, hein, Dieu est grand. J'aurais dû avoir plein d'amen. Ouais, amen, Dieu est grand. Ouais. Dieu est grand parce que, il fait en sorte que nos cultes, même si jeudi soir, j'étais pas à la répétition de louange, donc je connaissais pas le thème d'Antonia. Je savais pas vers quoi elle allait orienter sa louange. Mais ce matin, j'ai vu un Dieu qui a donné, en parlant de Jésus, bien évidemment, j'ai vu un Dieu qui a donné sa vie sur la croix. Et qui a fait en sorte que par sa vérité à lui, eh bien, on puisse être affranchi. Jésus a tout pris sur la croix. Il a fait en sorte que l'on puisse, eh bien, tout laisser à la croix. Et que, eh bien, après, il puisse nous donner un enseignement, sa parole qui est la vérité. Et grâce à cette vérité, eh bien, on est affranchi. C'est quoi affranchi? Libéré. Affranchi, c'est pas une enveloppe avec un timbre dessus. C'est pas ça. Être affranchi, c'est pouvoir être libre. C'est pouvoir être, waouh, Seigneur, je suis libre devant toi, et maintenant, je travaille pour toi. Et ça, c'est vraiment mon cœur. C'est de pouvoir dire, Seigneur, chaque matin, Seigneur, j'ai envie de bosser pour toi. Je l'ai encore dit mardi, on a eu une petite pastorale avec Antoine, avec Godet, etc. Bon. À un moment, je leur ai dit, moi, j'ai envie, voilà, mettez-moi au boulot, les gars. Mettez-moi au boulot, j'ai envie de bosser pour Dieu. Je vais où? Alors c'est vrai, aujourd'hui il y a un ministère qui est là, qui est nommé, qui est reconnu, mais j'ai envie de bosser. Et voilà, aujourd'hui j'ai cette vérité, je la connais la vérité, j'ai l'enseignement de Jésus qui est dans ma vie, et grâce à cette vérité, j'avance. Et c'est le rôle de chacun ici. C'est le rôle de chacun ici, c'est de pouvoir dire Seigneur, eh bien moi j'avance. Je suis dans cette course. Je suis dans une course. Mais la course, mon but, c'est pas d'arriver à la fin, c'est de courir la course. On n'est pas dans une course où on a une ligne d'arrivée. Bien sûr, il y en a une. Dans toute course, il y a une ligne d'arrivée. Mais le but de la course, c'est de pouvoir faire ce marathon. C'est-à-dire que le marathon, c'est 42 km 500, je crois. Où il y a peut-être des virgules, hein, j'en sais rien. Mais le but, c'est de pouvoir arriver à la fin de mon marathon. C'est-à-dire que ma course, eh bien, je vais la courir. Eh bien, c'est ça. En vérité, la vérité que vous connaissez, la vérité, le amen qui est là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 48 à 51, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Les Juifs, ils étaient durs, hein, à cette époque-là. Un Samaritain, en fait, il faut savoir que les Juifs et les Samaritains étaient ennemis. D'accord? Donc, quand il disait à un Juif, toi, t'es un Samaritain, c'est une insulte. Et que tu as un démon. Alors, vas-y, ils enfoncent le clou, là. Non seulement t'es un Samaritain, mais en plus t'as un démon. Ils vont dire ça à Jésus. Ils sont sympas, les Juifs, des fois. Jésus répliqua, je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père. Et vous, vous me déshonorez. Dans votre façon de me parler, vous me déshonorez. Parce que vous n'arrivez pas à discerner la vérité qui est en moi. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Ouh là là, la jolie promesse. Ouh là là, la jolie promesse. Si on garde la vérité de Jésus-Christ, eh bien non seulement eh bien on va pouvoir marcher dans un enseignement qui est bon, qui est juste, mais en plus, on a cette promesse de vie éternelle. On ne mourra jamais. C'est-à-dire qu'on va demeurer dans la présence de Jésus. On va être là, et puis Jésus, eh bien moi, je suis dans cette présence, je suis dans cette vérité que toi tu m'as donnée, et puis voilà quoi, je vais jusqu'au bout. Et ça, c'est une belle promesse. C'est une belle promesse parce que le « en vérité » que Jésus nous donne, rien que ça, quand Jésus commence une phrase en disant « en vérité », il y a une promesse qui est merveilleuse. Amen, amen. Le « amen », je l'ai noté. Il est là. C'est quelque chose de ferme. D'accord ? Donc je reviens, hein, c'est du grec. Donc c'est une métaphorique du mot « fidèle ». Jésus est fidèle. Ouais ? Jésus est fidèle. Il a des promesses dans sa parole qui sont... Elles sont les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Elles sont vraies, elles sont là. Peu importe que tu y crois ou pas, elles sont là. Des fois, j'ai des gens qui me disent « Ouais, moi, je crois pas en Dieu. Je crois pas en Dieu, ouais. Ou si, je crois qu'il y a un Dieu, il y a quelque chose. Voilà, c'est le Dieu des plantes, Dieu des arbres, etc. » Et des fois, ma réponse, c'est très cash. Je leur dis « Mais que tu y crois ou que tu y crois pas, il est là. » Il est là. Et sa vérité, elle est là. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Un jour, tu vas te retrouver face à lui. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et c'est là la suite de mon prêche. C'est la suite de mon prêche. Il y a 15 jours de ça, j'ai eu l'occasion de prêcher en Bretagne. Et j'ai prêché sur le Matthieu 25. Et plus précisément, sur la parabole des talents. Et je vais revenir dessus. Je le précise, hein, parce que bon, je sais que les gens de Bretagne écoutent les prêches sur Internet, donc bon, je leur fais un petit coucou d'ailleurs, puisqu'ils vont entendre ce prêche. Mais la parabole des talents, elle est... Ou même je vais revenir après à la parabole des talents. Je vais commencer par Matthieu 25. Matthieu 25 est un chapitre, alors il n'est pas... j'ai pris la fin. Mais la structure de Matthieu 25, elle est très particulière. Parce que dans cette structure de ce chapitre, et j'aime beaucoup ce chapitre, un jour j'ai entendu mon père spirituel prêcher sur Matthieu 25, et j'ai jamais oublié ce prêche. Mon père spirituel était Daniel Gaillard, et un jour il a prêché sur Matthieu 25, mais il a prêché d'une façon tellement pertinente, et j'étais jeune chrétien, et ça m'a foudroyé sur place. Parce que Matthieu 25, et surtout la parabole des talents, elle a une signification tellement puissante, tellement profonde, qu'on n'a pas le droit de négliger cette parabole. On n'a pas le droit de la négliger. Mais si on reprend Matthieu 25 dans sa totalité, il y a la structure, et je l'ai noté après, vous pourrez la reprendre, mais elle est toute simple, hein. Il y a deux paraboles dans Matthieu 25, et il y a la conclusion qui est là. D'accord ? La première parabole, c'est la parabole des 10 vierges. Qu'est-ce qu'elle dit, la parabole des 10 vierges ? Désolé, mais c'est 10 jeunes filles, on va dire, 10 vierges, voilà. Et c'est 10 jeunes filles qui attendent l'époux. Et en fait, elles l'attendent tellement que la nuit arrive. Et elles ont des lampes. Et à l'époque, il n'y avait pas l'électricité, on n'appuyait pas sur un bouton pour avoir de la lumière. Du moins, je le pense. Je pense. Et ce qui fait que, avec leurs lampes, est arrivé le moment où elles sont tombées en panne. D'essence, de carburant pour leurs lampes, d'huile, parce que c'était des lampes à huile. Elles manquaient de carburant dans cette lampe-là. Ce qui fait qu'elles se sont retrouvées dans le noir. Encore une connotation par rapport à l'image que Sandy a eue tout à l'heure. On est dans le noir, on ne nous voit plus. L'époux va passer, il ne va pas nous voir, puisqu'on est dans le noir. Mais la parabole des 10 vierges, quand on prend sa conclusion, qui est, il me semble que je l'ai noté, voilà, c'est le verset 12, mais il dit... Je vous le dis en vérité, le même vérité que tout à l'heure, le Amen, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. On sait que Jésus va revenir, on sait que l'époux va revenir. Mais le but pour nous, en tant que chrétiens, c'est de ne pas être dans le noir. C'est de toujours pouvoir être prêt à ce que quand l'époux va revenir, eh bien on puisse avoir du carburant pour que Jésus nous reconnaisse. Bien sûr, c'est imagé. On est d'accord, une parabole, c'est une image. Jésus utilise une image. Mais cette parabole des 10 vierges, elle nous dit tout simplement, en tant que chrétien, ou en tant qu'homme ou femme, soyez prêts. Soyez prêts parce que je reviens bientôt. Et ça, j'y crois profondément. Je crois profondément que Jésus revient bientôt. Et il revient très bientôt. Très bientôt. Hier, j'ai eu l'occasion de regarder une vidéo. C'était un lien qui a été partagé par un de nos pasteurs, Michel Barbez. Et en fait, aujourd'hui se lève une religion, internationale, mondiale. Elle se lève, cette religion mondiale. Cette religion mondiale, elle est là pour réunir tout le monde. Musulmans, bouddhistes, chrétiens, juifs. Et le lien de ces quatre religions qui vont se réunir pour faire un ordre mondial, c'est de virer tous les dieux et de dire, voilà, on a un seul Dieu, tous. On a un seul Dieu. Ce qui nous réunit, c'est l'amour. Point. Et il y a toute une analyse sur cette vidéo, sur cet ordre mondial qui se lève, qui fait que, on doit être vigilant, d'autant plus être des vierges avec de l'huile dans nos lampes. Parce que cette notion qui arrive là est annoncée dans l'Apocalypse. Elle est annoncée dans l'Apocalypse. Les signes des derniers temps, c'est qu'il y aura une religion qui va se lever, une seule et même religion, et qui va renier Jésus-Christ, qui va renier le fait que, on puisse avoir une conviction profonde dans cette vérité qui est Jésus-Christ. Donc la parabole des dix vierges, je vous la soumets, je vous la donne. Prenez-la, relisez-la, Matthieu 25, c'est les 12 premiers chapitres. Relisez-la parce que, à nous d'être prêts. S'ensuit par rapport à ça, la parabole des talents. La parabole des talents, je vous le rappelle, c'est un homme riche qui part. Il s'en va en voyage et il prend ses serviteurs. Et il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. D'accord? Et puis voilà, il part en voyage. Et ses talents, c'est vrai que c'est de l'argent. Dans cette parabole, on parle d'argent. Mais moi, j'aime bien prendre le talent dans le sens général du terme. Le talent, c'est comme on dit d'un artiste, qu'il est talentueux. Un talent, c'est quoi? C'est avoir vraiment une grosse qualité, quelque chose d'artistique que l'on peut mettre en place pour Jésus. D'accord? Alors, ce que j'ai fait, c'est que cette semaine, lorsque j'ai commencé à réfléchir pour mon prêche, et j'ai dit, Seigneur, voilà, qu'est-ce que je vais partager dimanche? Eh bien, Jésus m'a montré ça. Alors, c'est peut-être pas le même dans l'image que j'ai eue, mais voilà. C'est pas un pot de confiture, même si ça y ressemble. Celui-là, c'est un pot à bonbons. C'est mon préféré. D'accord? J'ai aussi des pots de confiture. Alors, ça n'a rien à voir avec bonne maman, ou bon papa, ou que ce que vous voulez. Mais en fait, si je prends mes différents pots, alors désolé, celui-là, c'est pas un bonne maman. Mais c'est sympa, il y avait du caramel dedans. J'aime. Sur les crêpes, c'est super bon. Voilà mes talents. Je suis l'homme riche. Autant que je me prenne la meilleure place. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai le privilège d'avoir le micro autour de la tête. Donc c'est moi qui vais faire l'homme riche. Vincent, tu peux venir s'il te plaît? Tu veux bien venir, Patrick? Ouais? Je suis l'homme riche, je dis Patrick, je pars en voyage. Tiens. Je dis rien de plus. Tiens, Patrick. Ils me connaissent. Ils savent qui je suis. Puisqu'ils travaillent pour moi. Je vous rappelle la parabole des dix vierges. Ils savent que je suis l'époux, je suis quelqu'un de riche. Parce que je pense qu'il y a un lien entre la parabole des dix vierges et ensuite la parabole des talents. Je pense qu'il y a un lien. Et ensuite, je vois Vincent. Regarde Vincent. Tiens. Et etc. Je ne vais pas prendre 4 personnes, j'en ai déjà pris 2. À la limite, je peux en prendre un troisième. Qui veut être le troisième? Nelly. Oh, t'es trop jolie, Nelly. Tiens, regarde, j'ai même l'étiquette qui se barre. Bon, c'est pas grave. C'était une bonne maman, tu vas t'en souvenir. Tiens, Nelly. Mais à la limite, à Nelly, je vais plutôt lui donner celui-là. Tu mérites le caramel. Et je m'en vais. Et je les laisse comme ça. Quel va être leur rôle? Ils se disent, mais notre maître est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que il nous laisse quelque chose pour nous faire plaisir parce qu'il va pas revenir tout de suite? Et il y a vraiment une connotation dans la parabole des talents, c'est que Les serviteurs ont le bon réflexe, pour deux d'entre eux. C'est qu'ils vont faire fructifier le talent. Ils vont le faire fructifier. On pourrait très bien aussi, et peut-être que certains d'entre nous ici le ferions, imaginons que Patrick soit un chanteur hors pair. Il l'est hein, déjà. Mais imaginons qu'il ait une voix de baryton. Désolé, hein, c'est pas parce que t'es black, hein, mais bon. J'aime bien les barytons, j'aime bien Barry White et tout. Bon. Imaginons qu'il ait une superbe voix et c'est un talent que Dieu lui a donné. Et j'en connais des comme ça. Est-ce que Patrick, avec ce talent, voix baryton, pourrait le mettre ici, va aller dans le monde? Parce qu'il pourrait très bien le dépenser pour lui-même, ce talent. Et le mettre au profit du monde, on peut, bien évidemment, parce que c'est un talent. Mais d'un autre côté, en parallèle, il va le mettre au service de Dieu. Il va le mettre au service de Dieu, parce que son objectif, à lui, c'est que ce talent puisse grossir, grandir en lui. Et qu'il puisse vraiment rester là, pour pouvoir être vraiment dans ce que son maître veut de lui. Il a envie de ça, c'est son désir. Et donc il sait que le talent que son maître lui a donné, eh bien il va le mettre à profit pour que son maître soit fier de lui. La même chose pour Vincent. Vincent, c'est un gestionnaire hors pair. Un gestionnaire, il est au carré au niveau de sa compta, etc. Franchement, et c'est vraiment le talent qu'il a là, c'est que Dieu lui a donné ce talent. Et il a pu le mettre à son profit. Dans le sens où, bah aujourd'hui, Vincent, pour revenir à la vie d'aujourd'hui, il est patron d'une entreprise. Et forcément, eh bien, il a un talent qui doit être là. Et ce talent, qu'est-ce qui me dit que c'est pas Dieu qui lui a donné ce talent? Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Peut-être qu'un jour il s'est lancé, il a fait ce pas de foi pour dire Seigneur, moi j'ai envie, j'ai ce cœur à pouvoir me lancer dans les affaires pour que tu sois béni dans mes affaires. Et je pense que c'est le cœur de Vincent, en connaissant Vincent. Et Dieu lui a dit, voilà, moi je vais faire en sorte que le talent que je mets dans ton cœur puisse aller aussi dans ce sens. Et donc Vincent va faire en sorte que ce talent puisse fructifier. C'est ça la parabole des talents. Et puis Nelly, alors j'ai pris Nelly, c'est pas parce que c'est une femme, hein, d'accord? On est d'accord? Je lui donne un plus petit talent. Alors déjà, dans cette parabole des talents, je pense qu'on peut mesurer les talents. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, moi j'ai un talent pour Dieu. Alors moi qui suis aujourd'hui là avec un micro et en train de prêcher, c'est pas parce que je prêche que j'ai un plus grand talent que celui qui va faire le ménage dans l'église. Je prends celui qui fait le ménage, je le dénigre pas, et moi-même je fais le ménage dans l'église. Quand j'y pense. Mais, voilà. Quand on prend la parabole des talents, on dit bien dans la parabole que à l'un il donne 5, à l'autre il donne 2, et à 2 ou 3 en fonction d'eux, et à l'autre il donne 1. Donc il y a bien cette mesure qui est là. Il y a bien une mesure où le maître sait pertinemment que à Patrick je peux lui donner un plus gros talent qu'à Vincent. Non pas parce que Vincent est moins bien que Patrick, mais je sais que Patrick va mettre à profit ça. Mais quelque part, moi je suis satisfait quand je vais revenir et qu'ils vont chacun me dire, ben voilà, moi tu m'as donné ce talent-là. Alors je peux pas les faire grandir, hein, j'ai pas encore ce don-là. Imaginons que là, le talent il est gros comme ça. D'accord, il a doublé. Et c'est ça la parabole des talents. C'est que Patrick, il me dit, voilà, je sais que tu as un maître qui est dur et que quand tu donnes quelque chose, tu aimes bien avoir du retour. Et Jésus est comme ça, il aime bien avoir du retour. Oui? Jésus aime bien avoir du retour. Et donc, dans ces cas-là, je lui dis, voilà, bah écoute, toc, garde les talents et puis je te donne des villes. Voilà, je te donne une récompense, etc. Il a fait la même chose, Vincent. Il a pris le talent, il en avait moins que Patrick, et puis mais il a quand même réussi à le faire grossir de 100%, comme Patrick. Il a été aussi fidèle que Patrick, même si son talent est plus petit que celui de Patrick. Il a été tout aussi fidèle. Donc à nous de ne pas négliger les talents qui sont en nous. Certains ont tendance à se dire, et ça je pense que c'est dans notre tête, me dire, voilà Seigneur, moi j'ai un petit talent par rapport à lui. Seigneur, en plus l'étiquette est déchirée. J'arrive même pas à lire que c'est bonne maman. Si, c'est écrit sur le couvercle. Mais lui, il a un plus gros talent que moi. Mais je suis aussi fidèle que toi. J'ai envie de bosser pour toi, Seigneur. Et dans ma tête, mon talent, il est plus petit que celui de Patrick. Mais est-ce que pour Jésus, mon talent est plus petit? Et non. Parce que ce que va voir Jésus, lui, ce qu'il va vouloir voir en moi, c'est mon profit, le profit que je vais mettre pour son service, pour son royaume. Comment je vais commencer à travailler pour lui? Est-ce que je vais faire de ce talent? Parce que le résultat, il est le même entre Vincent et Patrick. Le résultat, il est le même. Même si le talent est plus petit à l'un qu'à l'autre, le résultat est le même. Ils ont réussi à faire fructifier et faire doubler leur talent. Quant à Nelly, je vais me défouler. Non, t'as un bon rôle. Nelly, elle a un talent et elle ne prend pas la mesure de son talent. Non seulement elle ne prend pas la mesure de son talent, mais en plus elle ne prend pas. Elle connaît la mesure de son maître, mais elle le craint, son maître. Elle le craint tellement que sa crainte est mauvaise. Elle a une mauvaise crainte. Elle n'a pas une saine crainte en se disant « Je sais, Seigneur, que tu as besoin que je mette à profit ce talent que tu m'as donné. » Et que je sais que comme tu es un Dieu dur, Jésus n'est pas, enfin, je ne pense pas qu'il soit dur, moi je ne le connais pas comme étant un Dieu dur, mais dans la parabole, on nous annonce qu'il est un Dieu dur, un maître dur. Eh bien, j'ai préféré garder ce talent et le garder au chaud, là. Parce que je sais que quand tu vas revenir, tu vas me demander des comptes. Et les comptes, pour moi, ça va être de te rendre ton talent. Et que ton talent, tu n'es rien perdu. Tu n'auras rien gagné, mais tu n'auras rien perdu. Et Jésus, ce n'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Et ce matin, si vous êtes là, entendez bien cette phrase. Jésus n'a pas besoin d'entendre ça. Jésus, tu m'as confié un talent. Sache que tu n'as rien perdu. Parce que Jésus, ce qu'il a envie d'entendre, c'est « Seigneur, tu as tout gagné. » Tu as tout gagné parce que ce que tu as mis dans mon cœur, je l'ai mis à profit pour que eh bien, ton royaume puisse grandir. Ton royaume puisse grandir. D'accord ? Et moi, comme étant le serviteur, je vais voir mes trois serviteurs ici. Alors déjà, Nelly, bon, vous connaissez la suite. Nelly, voilà, on va la balayer. Elle est dehors. Casse-toi. Et puis, on va donner son talent à Patrick. Patrick va se retrouver avec un autre talent et son rôle, ça va être quoi? De dire, ok, voilà, j'ai fait mon boulot, merci, j'arrête là. Je reviens à la course de tout à l'heure. On court tous un marathon. On ne court pas un sprint, on court un marathon. Et c'est là que la structure de Matthieu 25, la conclusion, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il va venir avec du peuple, hein, ça va être sympa, à nous d'être prêts. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Tiens, mettez-vous là. Et Nelly, tu restes là. Désolé, Nelly. Je t'aime, Nelly. Oh. Alors, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Bon, non pas que les boucs soient mauvais. Hein. On a besoin des boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Alors, je les ai mis à l'envers. Ou si je monte sur l'estrade, ils seront à ma droite. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Venez, entrez dans la gloire du Père. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous fait ça? À quel moment? Donc, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu, ouais, c'est dur à dire, malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, amen, quelque chose de ferme. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. À moi que vous les avez faites. Les talents que je vous ai mis en vous, eh bien, mettez-les à profit, non pas que pour moi, mais pour mon royaume. Parce que Jésus, lorsqu'il est parti, a bien dit une chose. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Guérissant les uns, etc., etc. Allez annoncer la bonne nouvelle. Non pas qu'on soit des prosélytes. C'est pas, notre objectif, c'est pas de faire du nombre. C'est à la fois, bien évidemment, faire du nombre, mais c'est aussi de faire des chrétiens, leur annoncer une bonne nouvelle, parce que notre objectif, il est bien évidemment éternel. Notre objectif, c'est de pouvoir avoir nos talents que l'on va mettre au profit du royaume de Dieu pour qu'on puisse avoir la joie et le privilège, parce qu'on l'a cette joie, mais on a surtout le privilège d'aller annoncer la bonne parole à tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ. Amen. Je vous reprends mes talents, parce que j'y tiens mes pots de confiture, surtout celui à bonbons. Ça, c'est pour ceux qui veulent bien entendre, j'aime les bonbons. Non, c'est pas que pour le dentiste. Là, je crois qu'il y en a encore une derrière Pierre. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Merci pour les trois qui sont venus. Merci. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous n'avez pas donné à manger, j'ai soif, etc., etc. Et il leur répondra, verset 45, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » La conclusion est dure, mais elle est bonne à partir du moment où on en prend conscience. Notre objectif ce matin, et mon objectif à moi, c'est de pouvoir dire, voilà, ce matin, s'il y a des personnes ici qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, faites-le. Est-ce que vous avez besoin qu'on prie pour ça? Venez me voir, venez nous voir. Parce que, eh bien, il y a cette conclusion qui est là. Dernièrement, c'est vrai qu'on est allé à un enterrement, oui, on était ensemble avec Pascaline, et cet enterrement, il m'a marqué. Parce que j'ai vu une église pleine. Je peux avoir de la lumière, s'il vous plaît? Parce qu'on ne me voit pas. Regardez, ils sont tous les trois en train de parler là-bas, ils parlent sono. Je peux parler, mais ils ne m'écoutent même pas. Non, je parlais de lumière, simplement. Et cet enterrement, l'église était pleine. Une grande église, comme on savait les faire en ce temps-là, grande église romaine. Pleine. Parce que cet homme qu'on allait enterrer, eh bien, avait fait des œuvres, il était directeur d'une école de musique, donc tous ses élèves étaient là, tous ses collègues étaient là, il avait une popularité, c'était un homme qui était connu, reconnu pour ses talents, mais des talents qu'il n'a pas utilisés pour Dieu. Et l'église était pleine, et moi j'étais là en me disant, mais où est-ce qu'il est aujourd'hui? Non pas que je me dise, voilà, il est en enfer, c'est pas à moi de le dire. Surtout si un jour quelqu'un vient vous voir en disant « Ouais, toi, tu vas aller en enfer », c'est pas à toi de juger de ça. C'est pas à toi de le juger. Mais je me dis, mince, avec un talent, et c'était un très bon clarinettiste, il avait un talent, et je les ai vus jouer au mariage de leur beau-fils. Waouh, ils nous ont joué du big band comme j'aime. Et puis là, on enterrait cet homme-là, et je me dis, mais tous ces gens n'ont pas cette connaissance de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a vraiment dans ce cœur une larme qui coule de nos cœurs pour dire voilà toutes ces âmes qui sont là? Peut-être qu'il y avait d'autres chrétiens, mais j'en doute pas. On n'était pas les seuls quand même avec Pascaline. Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient une foi sincère en Dieu, qui avaient vraiment pris conscience de leur rôle et de leur rôle dans le royaume de Dieu. Mais tous ces talents qui se perdent, mais que ce soit dehors, en dehors de nos églises, ou même à l'intérieur des églises, il y a des talents qui se perdent. Il y a des claques qui se perdent aussi. Des fois, un bon coup de pied au derrière, pour mettre des talents en route, c'est pas mal. Mais on va surtout parler des talents aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est ce matin? Est-ce qu'on a vraiment, chacun ici, conscience des talents que l'on a? Est-ce que tu as cette notion de te dire, voilà, moi j'aimerais... Ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'ai de plus en plus à cœur de faire ceci ou cela dans l'église. Eh bien, amen, vas-y, dis-moi, on va avancer. On va y aller, on y va, on avance. La vision de notre église ici, c'est sauver une âme, élever un ministère, construire des églises. C'est notre vision, elle est affichée dans le hall. Eh bien, on a besoin de ça. On a besoin que chacun ici, on puisse avoir les armes nécessaires pour pouvoir mettre nos talents en route. Comme si c'était un moteur explosion. Et se dire, voilà, ben mon moteur explosion, je tourne la clé pour que l'étincelle se fasse et que dans cette étincelle, eh bien, c'est bon, je pars, on y va. Je passe ma première et ma deuxième et mon talent, je rentre dedans parce que j'ai besoin de travailler pour Dieu. J'ai envie de travailler pour Dieu. Et ça, c'est le sujet d'un autre prêche. Avons-nous réellement l'envie? Est-ce qu'on a réellement envie? Moi, je l'ai cette envie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque j'ai eu cette réunion mardi avec quelques pasteurs, où je leur ai dit, mais mettez-moi au boulot. J'ai envie de bosser. J'ai envie. J'ai envie. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a déjà du boulot qui est là, on en fait. Mais j'ai envie de plus. Alex a dit dans son prêche la semaine dernière, « Ouais, j'en ai marre de ceux qui disent « on va bientôt voir des choses ». Mais on va les voir, les choses. On va les voir. Parce qu'elles sont plus proches que ce qu'on pense. Non pas que je vais les voir dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est pas mon objectif. Et là, je rejoins Alex. J'ai pas envie de dire tout le temps, tous les ans, que vous m'entendiez dire « on va bientôt voir des choses, on va bientôt voir des choses ». On les voit. Elles sont là. Elles sont là parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde où on sait pertinemment que beaucoup de gens vont se tourner vers Dieu. Est-ce que nos talents vont être mis en place, mis en route, pour que l'on puisse avoir ce déclic de parler? La semaine dernière, enfin il y a 15 jours, quand j'étais en Bretagne, j'étais dans un supermarché avec un ami et la caissière. Je commence à parler et puis j'aime bien avoir la banane parce que je sais qu'il y a quand même, c'est un métier difficile, il voit des gens qui ne sont pas toujours sympas, etc. Donc j'ai toujours un petit mot gentil, j'aime bien dire des petits mots gentils aux caissières, à ceux qui encaissent, même s'ils me prennent un peu de mon pognon, voilà. Mais il y a quand même besoin de leur dire, voilà, bonjour, merci, au revoir, et puis un petit mot. Et on a commencé à parler avec cette dame. Mais comme il y avait du monde derrière, j'ai pas pu épiloguer. Donc j'ai un petit mot gentil, on a commencé, elle avait des jumeaux, donc vous pensez bien qu'on avait un sujet commun. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai des jumeaux. Et je continue à avancer, l'encaisser, machin, et puis voilà, bon, bah merci, au revoir. Et je suis sorti du supermarché, j'ai dit, voilà, Jean-Pierre, cette femme, j'étais à deux doigts de lui parler de Jésus-Christ. J'étais à deux doigts de lui parler. J'avais envie de témoigner. J'avais cette envie, j'étais là, mais j'étais pressé par le monde. Je ne pouvais pas me mettre là. Bon, alors, je vais vous parler de Jésus maintenant. Alors, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Bon, bah, c'est bien. Déjà, une bonne question, une bonne réponse. Non, je ne pouvais pas faire ça. Ce n'était pas mon objectif. Mais quand je suis sorti du supermarché, j'ai dit, écoute, Jean-Pierre, il va m'entendre, hein, parce que c'est lui qui écoute les prêches. Jean-Pierre, voilà, cette femme au supermarché, j'étais à deux doigts de lui parler de Jésus-Christ. Il faut continuer ce relationnel. Il faut continuer à voir. Quand vous êtes devant quelqu'un, ayez la banane. Ayez la banane. Dernièrement, j'ai eu je connais un maire d'une ville en Normandie qui est chrétien. Et il avait ce témoignage de dire, voilà, un jour, il y a un pasteur qui allait... c'était quelqu'un... Bon, peu importe, on s'en fiche. Mais cette personne, c'était même un pasteur. Ouais, c'était un pasteur. Un jour, le maire est venu le voir, donc il se connaissait. Le maire savait qu'il était pasteur et qu'il était dans une église dans la ville de ce maire. Et un jour, le maire lui a dit, voilà, je sais que vous priez pour moi et je vous en remercie, mais ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous ne me demandez jamais rien, contrairement aux autres associations. Parce qu'il y avait le témoignage qui était là, et le témoignage était reconnu. Le maire a su dire à ce pasteur, voilà, bah écoutez, je vous remercie parce que je sais que je peux compter sur vous, mais le jour où vous aurez besoin de moi, je serai là. Parce qu'il y avait ce travail de fond qui était fait par l'Église, par le pasteur, ce qu'il avait mis en place. Et puis voilà, quand je fais ça dans ma vie, je ne le faisais pas avant, mais peut-être que Dieu a mis ça dans mon cœur. C'est comme ça que les talents se révèlent. Et à partir de là, chaque chose a sa place, chaque personne a sa place, chaque talent a sa place, et on avance, et on grandit, et on fait du bon boulot pour Dieu. Amen. Vous avez envie de ça? Alors, il y a eu plus de oui ici. Là-bas, alors à gauche, normal, hein, ils ont des Anglais à leur tête. Pardon. Moi, j'ai envie de ça. J'ai ce feu pour ça. J'ai envie de ça. Je sais qu'il y a des choses qui sont là. Je sais qu'il y a des choses qui sont là, qui se décantent. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Ce matin, moi, j'ai eu un témoignage avant le culte. Quelqu'un qui est venu me voir m'a dit, voilà, sache que ton prêche de je ne sais plus quand m'a fait du bien. Ben moi, ça m'a fait du bien. Pas par orgueil, pas pour me dire, tiens, quand je prêche, ben, tiens, ça touche quand même des gens. Non, c'est pas ça. Mais c'est le fait de me dire, ben voilà, au moins, il y a un fruit qui est là. Il y a un fruit. Peut-être que c'était en plus un sujet qui était difficile à prêcher. Et ce fruit, il était là. Et ça me fait du bien. Pas parce que j'ai envie de dire, ouais, Fred, c'est le meilleur des prédicateurs du monde. Non, j'ai pas envie de ça. C'est pas mon objectif. C'est pas mon objectif. Ce que je veux, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait un fruit pour le royaume de Dieu. Je veux un fruit, je veux voir un fruit. Quand je donne des paroles de connaissance ou des prophéties, je veux un fruit. Je veux pas donner des paroles de connaissance parce que c'est Fred qui donne les paroles de connaissance. Ouais. Et personne d'autre. Non. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, et je pense que c'est l'objectif de tous ici, c'est qu'on puisse avoir un fruit. Parce que je vous rappelle, et ça c'était le premier prêche que j'ai fait ici, j'ai affiché des photos de fruits sur le mur là, et un jour je le referai ça. J'ai mis des photos de fruits, et je leur ai dit, alors j'avais mis un fruit facile, hein, pour ceux qui savent, les pommes. On sait tous reconnaître une pomme. Est-ce qu'on sait reconnaître le pommier? Est-ce qu'on sait associer le pommier avec la pomme? Moi, oui, parce que je suis normand, forcément, le cidre. Je pense qu'à manger. Par contre, j'avais mis un cognacier à côté. Je crois que Rita, t'étais là la première fois que j'ai prêché. Je me souviens. J'avais mis un cognacier. Ça fait quoi le cognacier? Des coins. Eh ouais. Non, c'est pas un gros mot, Antonia. C'est pas un gros mot. Je me permettrai pas de dire des gros mots sur l'estrade. Parfois, si, quand même, ça bouscule. Mais non, pas aujourd'hui. Un autre jour, peut-être. Et un cognacier, ça fait des coins. On sait reconnaître un coin, est-ce qu'on sait reconnaître le cognacier? Eh bien, c'est comme ça. Chacun ici, on a en nous un fruit qui est là. Non pas qu'on soit des pommiers, des cognaciers, des framboisiers ou quoi que ce soit, mais on a un fruit. Et c'est notre fruit qui fait que l'on voit le talent. Amen. Donc j'ai envie de voir des fruits ce matin. On va se lever et on va prier ensemble. On va prier pour que, eh bien, on puisse voir des choses se révéler. Moi, je crois que là, ce matin, il peut y avoir des visions. Je crois que Dieu peut vous mettre une image devant les yeux. Tout comme moi, il m'a mis mon pot de confiture. Une image. Après, quand j'ai vu cette image, j'ai vu le pot de confiture, je dis, Seigneur, comme Alex la semaine dernière, il dit, j'ai vu une image, mais je ne connais pas la signification. Ben, moi, j'ai vu mon pot de confiture, je dis, Seigneur, mais il y a tellement de choses que je peux dire sur un pot de confiture. Et je ne suis pas allé loin, parce que j'avais des idées plein la tête. Peut-être que un prochain prêche, je ramènerai mes pots de confiture et vous me verrez avec mes pots de confiture en train d'ouvrir et fermer le couvercle. Parce que si j'ouvre ou que je ferme le couvercle, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est un autre prêche. Et vous me verrez avec ce prêche-là bientôt. Et on va prier ce matin. Et on va prier avec ferveur et avec conviction. Non pas que vous ne le fassiez pas, que vous n'ayez pas l'habitude de le faire, mais sortez vos tripes. Dites, Seigneur, voilà. Quoi? Point d'interrogation. Quoi? Seigneur, comment? Point d'interrogation. Comment? Pourquoi? Pourquoi, à la limite, c'est Dieu qui le sait. Quoi? Comment? Où? Dites ça, Seigneur, où? Dans quel domaine? Où? Ça peut être ici dans la grande salle, ça peut être dans une salle à eau. Le Seigneur peut te dire, voilà, j'ai besoin de toi pour les enfants. Va enseigner les enfants. Eh bien, voilà, où? C'est dans la salle en haut. Dans la garderie. Ça peut être toutes les questions que vous avez à poser à Dieu, parce que Dieu va vous révéler ça. Et moi, je vais prier pour que Dieu puisse vous donner une vision. Qu'il puisse vous la donner soit maintenant, soit un petit peu plus tard, ou cette nuit. Il y en a qui ont souvent des rêves la nuit. Moi, j'en ai jamais. Enfin, je dis pas jamais, j'en ai eu quelques-uns. Mais souvent, le soir, je me couche, je suis là dans mon lit, je dis, Seigneur, donne-moi un rêve. Et je me réveille le matin, bah, peanuts, voilà, ceinture, hop. Fred, eh ben, la prochaine fois peut-être, la prochaine nuit, vivement la prochaine nuit. Et je me couche la suivante et Seigneur, donne-moi un rêve. Et je me réveille, ma petite pinette, ceinture, tout ce que vous voulez, walou, comme vous voulez. D'accord? Mais il y en a qui ont ça. J'ai vu, y a un pasteur là que je connais, et lui, Dieu lui parle la nuit. Et la nuit, il a des rêves. Il se lève le matin, tiens, il parle à sa femme, j'ai vu ça cette nuit, il va toc, 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 toc. Bon, super, moi j'ai pas ça. Bon. Chacun ses talents. Chacun sa façon d'entendre la parole de Dieu. Chacun a sa façon à lui. Ou chacun a la façon que Dieu veut qu'il ait la possibilité d'entendre sa voix. Le but pour nous, c'est d'avoir les plus grandes oreilles. Alors moi, elles sont assez grandes, je suis assez content, parce que j'entends mieux que vous. Ben non, c'est pas vrai. Seigneur, je te remercie. Je te remercie ce matin parce que c'est toi qui parles au cœur. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui montres. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a déjà, même avant notre naissance, tu as mis des choses sur nos vies. Tu connaissais nos vies. Tu savais, Seigneur, où on était. Tu savais ce qu'on allait faire. Tu savais où on allait, Seigneur. Et ce matin, je veux te prier pour tout l'auditoire ici, pour que tu puisses, Seigneur, eh bien, parler au cœur. Peut-être que certains ont déjà leur vision. Eh bien, tant mieux. Seigneur, tu continues et tu consolides ce talent qu'ils ont dans leur vie, qu'ils puissent continuer à le consolider, à le construire sur des fondations qui soient de roche ou de béton armé, peu importe. Mais Seigneur, que tu fasses que ces visions ne soient pas sur du sable. Seigneur, je proclame maintenant que tu peux toucher le cœur de chacun de ceux qui ne savent pas où ils vont. Là maintenant, que tu puisses leur montrer clairement, ou que ce soit dans une vision ou une image, que ce soit par leur voisin qui va leur parler tout à l'heure après le culte, que ce soit par je sais pas quoi, Seigneur, parce que tu as tellement de façons de nous parler. Eh bien, Seigneur Jésus, moi je proclame maintenant que tu vas toucher nos cœurs, nos vies, et que tu vas nous donner un fruit. Seigneur, j'ai envie de voir ces fruits. Je veux avoir la possibilité de venir cueillir un fruit quand il y en a besoin dans ton royaume. Si demain on va faire de l'évangélisation, que j'ai besoin d'un fruit d'évangéliste, eh bien je vais aller chercher ce fruit d'évangéliste. Si j'ai besoin demain d'avoir quelqu'un qui a un fruit pour du bricolage, eh bien je vais aller voir le fruit du bricolage et il va bricoler. Au nom de Jésus, maintenant je proclame que les talents sont là et qu'ils vont se révéler au nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, trois fois saint. Tu es grand, glorieux, tu as tous les qualificatifs que l'on peut dire. Parce que Seigneur, c'est toi qui diriges en tout. Tu diriges, Seigneur, que ce soit nos réunions ici, notre louange, mais tu diriges nos vies. À partir du moment où nos cœurs sont ouverts, eh bien Seigneur, c'est toi qui diriges. Tu nous donnes l'autorité, Seigneur, pour pouvoir rentrer dans ces talents que tu nous donnes. Donne-nous cette autorité. Seigneur, tu instaures maintenant l'autorité dans chacune des vies. Que l'on puisse, Seigneur, avoir la possibilité de travailler pour toi, de travailler de façon saine. Oh Jésus, je te loue, je te rends grâce parce que tu es un Dieu grand, merveilleux. Oh Seigneur, Seigneur, merci d'agir, Seigneur, ce matin. Merci d'agir ce matin, Seigneur. Seigneur, tu bouges, Seigneur, les vies, les cœurs, Seigneur. Bouge, Seigneur. On a besoin de voir, Seigneur. Je sais que ton esprit est là, que forcément, comme on est le temple du Saint-Esprit, ben forcément ton Saint-Esprit est là. Seigneur Jésus, on n'a pas besoin d'avoir des prières pompeuses en disant « Envoie ton Saint-Esprit ». Non, il est là. On n'a pas besoin d'avoir des prières pompeuses en disant « Seigneur, viens ». Non, tu es déjà là, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu passes dans les rangs maintenant et que tu touches les cœurs. Je sais, Seigneur, que tu bouges les vies. Je sais, Seigneur, que tu bouges les mentalités. Tu bouges les mentalités. Tu bouges les mentalités parce que des fois, eh bien, tu mets des images pour lesquelles on ne comprend pas peut-être tout de suite, Seigneur, mais on comprendra plus tard. Alors, Seigneur Jésus, agis maintenant. Agis au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant que des choses vont se révéler, que des visions vont être mises devant les yeux, que des songes vont être là. Parce que Seigneur Jésus, c'est toi qui agis maintenant. Amen. Amen, amen. Amen. Je voudrais aussi donner la possibilité à ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas le principe de donner sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas une formule toute faite. Ce n'est pas de dire, voilà, je donne ma vie. C'est peanuts. Ce n'est pas le fait de dire, voilà, l'ambiance, elle est bonne, et tiens, bah, j'ai envie, ils sont sympas ici, il y a un bon esprit de famille, tiens, je donne ma vie à Jésus. Non. À partir du moment où on donne sa vie à Jésus-Christ, il se passe quelque chose de fort, très fort. Et bien évidemment, sans mettre la pression, ce n'est pas anodin de donner sa vie à Jésus-Christ. Mais le bon est là. Le bon et le très bon est là. Parce que Jésus, à partir du moment où il prend une vie dans sa main, il ne la lâche plus. Il ne la lâche plus. Même si des fois, il y a des personnes, et j'ai eu ça cette semaine, je me suis remémoré des personnes qui sont venues, qui sont passées ici dans l'église et qu'on ne voit plus. Et ce sont des gens, pour certains, soit ils sont dans une autre église, amen, tant mieux, soyez bénis, mais il y en a d'autres aussi qui quittent l'église et qui sont dans la nature, entre guillemets. Mais moi, je pense que même si eux ont quitté l'église, Jésus ne les lâche pas. Jésus, il a leur vie dans le creux de la main et il leur dit, peu importe, attends, prochain virage, je suis là aussi. Prochain tournant, je suis là. Prochaine épreuve, je suis là. Prochaine difficulté, je suis là. Prochaine joie, je suis là. Prochain travail, je suis là. Prochain enfant, je suis là. Prochain conjoint, des fois aussi, hein, mais ton conjoint arrive, je suis là. Tu vas te marier, je suis là. Jésus, c'est un gentleman. Il est là pour te dire, je suis là. Je suis là. Et il le dit dans Jean, 11 fois, dans Jean, il dit, je suis, je suis. 11 fois, je suis. Donc j'aimerais te donner la possibilité ce matin de donner ta vie à Jésus-Christ. Et si c'est ton envie, ton souhait, ton désir ce matin, lève la main. Et je vais prier pour toi. Sandy, si tu peux, un petit fond musical. S'il n'y a personne, c'est bien, mais je vais vous laisser le temps, parce que c'est toujours difficile de lever sa main. Il y en a peut-être d'autres aussi qui ont envie de revenir à Jésus. Parce que des fois, il y a des personnes qui s'éloignent et qui se disent, voilà, Seigneur, je te demande pardon parce que j'avais un feu pour toi qui était là, j'ai perdu ce feu, mais j'ai envie de revenir à toi. J'ai envie de recommencer, m'investir sur de nouvelles fondations et de bonnes fondations. Amen. Jésus est tellement bon. Il a ce cœur. Et c'est pour ça tout à l'heure ce chant qui disait « Je sais que tu m'aimes ». Est-ce que tu sais réellement que Jésus t'aime ? Est-ce que tu sais réellement comment Jésus t'aime ? Pour moi qui n'ai pas eu de père, ça a été difficile de voir Dieu comme un père. Parce que je n'ai pas eu cet exemple de l'amour du père. Ben, j'ai eu un père, mais il est parti tellement tôt, trop tôt. Et aujourd'hui, j'ai un Dieu qui est mon père. Et Jésus, il est venu là, sur la terre, il est venu sur cette terre pour te dire, voilà, je vais être ton avocat auprès du Père. Tout ce que tu feras, tu me parles pour que je puisse être ton avocat, pour que je puisse intercéder auprès du Père, pour que ta vie puisse être différente. Et c'est tellement bon de savoir ça, quand on se lève le matin, quand on se couche le soir, de dire, Seigneur, ma vie, elle est pour toi. Elle est pour toi. J'ai envie de plus, j'ai envie de toi, j'ai tellement envie de mieux te connaître, de m'approcher. Quand on ouvre sa Bible et quand on commence à étudier, quand on voit les paroles qui sont là et qu'on commence à dire, bah tiens, il a noté ça, tac, tac, pourquoi est-ce que ça s'est noté dans la Bible? Et puis il y a un renvoi à un autre passage en disant, bah oui, mais ça, c'est ça, comme ça, tac. Et qu'on voit vraiment le cœur de Dieu qui se révèle. C'est tellement bon. Parce que Dieu ne veut que du bien. Jérémie 29, 11 dit, voilà, je connais les projets que j'ai formé sur toi, des projets de bonheur et non de malheur. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et aujourd'hui, que tu sois en Jésus ou pas en Jésus, les projets sont les mêmes. Il a des projets pour chacun. Est-ce que les deux personnes qui ont levé leurs mains peuvent venir là? Tu veux bien? Ouais, Natacha aussi. Oh Seigneur, kuri la chatu farodoi. Je peux te tutoyer? Je pourrais être ton père. Regarde. Ton prénom? John? John Wayne? Non, pas John Wayne. J'arrive. Tu viens pour donner ta vie à Jésus? Pour revenir à Jésus? Ah. C'est bien, Natacha. C'est bien cette démarche. La démarche, c'est toujours bien. Alors je vous présente John. Parce que John, il a levé aussi la main tout à l'heure quand j'ai demandé qui était là pour la première fois. Non? T'as pas levé ta main? Non, pardon. Pardon. C'était... Non, pardon. Mais il me semblait... On va parler après. T'avais qu'à pas dire non. Je peux prier pour toi? On va tous prier pour ensemble, pour John et Natacha, pour que leur désir, c'est vraiment de pouvoir revenir à Jésus. Hein, je pense que c'est ça, Natacha, de continuer dans cette démarche. Ouais, j'étais bien cerné, hein, t'as vu? On va commencer par John, ça t'embête pas? Non. Seigneur, je veux te remettre John ce matin. Je te le dépose au pied de ton trône, Seigneur. Tu connais son cœur, tu connais sa vie, tu connais, Seigneur, les désirs qu'il a, les désirs pour à la fois pour sa vie, mais pour toi, Jésus. Eh bien, Seigneur, moi, je veux te demander maintenant de pouvoir venir implanter une vision dans son cœur. Que tu implantes quelque chose, Seigneur, qui soit ineffaçable. Que tu puisses graver son cœur, que tu puisses tatouer son cœur avec ton nom. Mette Jésus dans son cœur. Que Seigneur Jésus, il puisse avoir ce feu en toi. Parce que ta parole nous dit qu'on doit être baptisé d'esprit et de feu. Eh bien, Seigneur Jésus, je réclame maintenant un baptême de feu pour John. Un baptême de feu, Seigneur, qui va faire que tout ce qu'il va toucher va se consumer. Parce que, Seigneur, c'est toi qui va faire que, eh bien, il puisse porter du fruit. Et le fruit, Seigneur, qui va être là, Seigneur, dans sa vie, eh bien, c'est toi, Seigneur Jésus, qui va l'implanter. Seigneur, je proclame maintenant que John est ton serviteur. Je proclame que John est ton enfant. Que c'est lui, Seigneur, qui va avoir un rôle, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur Jésus, tu as envie, Seigneur. Tu as envie et tu as déjà des projets. Parce que, Seigneur, c'est ce que tu as dit dans Jérémie. Des projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, tu as des projets de bonheur pour John. Eh bien, maintenant, tu le bénis, Seigneur. Et je le bénis en ton nom. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus, qui va le prendre dans tes mains et faire que des belles choses arrivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour Natacha. Seigneur, c'est tellement bon de voir ce qui se passe dans sa vie, Seigneur. C'est tellement bon, Seigneur, de voir les fruits qui sont là, Jésus, parce qu'elle est déjà porteuse de fruits. Et ce matin, Dieu te dit qu'il voit ton cœur. Ce matin, il y a Dieu qui te dit qu'il connaît ton cœur dans les moindres recoins. Et il sait exactement chaque détail de ce que tu souhaites. Il le sait. Ton but à toi maintenant, c'est qu'il a besoin de cette proximité avec toi, qu'il veut avoir cette intimité avec toi, qu'il veut vraiment pouvoir te chuchoter à l'oreille. Et il a besoin que tu viennes le voir. À partir du moment où tu as une joie, une peine, que tu viennes le voir, parce qu'il a besoin de pouvoir chuchoter dans ton oreille des choses douces pour pouvoir réparer ton cœur. Parce qu'il sait que ton cœur a besoin de réparation. Oh Jésus, merci. Oh, je te rends grâce, Seigneur, pour Natacha. Je veux la bénir, Seigneur, et je veux te demander, Seigneur, de mettre quelque chose de particulier dans sa vie. Parce que, Seigneur, elle est aussi un phare dans sa famille. Elle est cette lumière qui rentre, Seigneur Jésus. Et ta parole dit qu'à partir du moment où on a une lumière, on ne la met pas sous un buisseau. On ne la met pas sous quelque chose qui cacherait cette lumière. Mais au contraire, la lumière, elle doit être au-dessus pour tout illuminer. Et Seigneur, c'est le rôle aujourd'hui de Natacha. Seigneur Jésus, que tu puisses faire que cette lumière soit tellement forte et bien que tous ceux qui sont autour d'elle, Seigneur, aient plaisir à s'approcher pour avoir chaud. Seigneur, maintenant tu fais que sa vie puisse continuer à bouger, que son cœur puisse continuer à être réparé. Parce que Seigneur, elle a tellement besoin de toi, comme chacun d'entre nous, comme John a besoin. Mais Seigneur Jésus, que tu guérisses maintenant. Que tu guérisses parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui a tellement de miséricorde. On l'a lu tout à l'heure, tu es un Dieu miséricordieux. À partir du moment où on est dans cette sainte crainte pour toi, Seigneur, eh bien toi tu es miséricordieux et tu pardonnes. Alors Seigneur Jésus, merci. Merci maintenant d'implanter une vision forte, Seigneur, dans la vie de Natacha. Oh Jésus, tu es tellement bon, Seigneur, et je sais que ton amour va se révéler en elle maintenant, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Oh Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Maintenant, tu agis, Jésus. Jésus, maintenant, tu touches là, Seigneur. Tu touches. Tu remplis, Seigneur. Tu remplis, Seigneur. Tu touches, Seigneur. Tu guéris, Seigneur. Il y a besoin, Seigneur, des guérisons profondes là, Seigneur. Tu guéris maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu guéris. Je brise maintenant. Je brise ce qui est là. Ce qui n'a pas besoin d'y être. Pour que ce soit Jésus-Christ qui prenne la place. Le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je brise ces liens, quels qu'ils soient. Je brise parce que, Seigneur, tu as besoin de toute la place dans sa vie. Pour pouvoir la diriger, Seigneur, tu as besoin, Seigneur, d'être là. Et je veux proclamer maintenant que John, Seigneur, a une vie qui est complètement consacrée pour toi. Alléluia, Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu implantes ton amour. Tout l'amour que tu as pour John, Seigneur. Seigneur, il a besoin de cet amour que toi seul es capable de donner. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, Jésus, courez le chat au faroé. Qui rende le chat au faroé. Oh Jésus, Jésus, courez le chat au faroé. Qui rende le chat au faroé, rende le faroé qui. Chat au faroé, rende le qui, rende le chat au faroé. Irai roki rende le faroé, vado le chat au faroé, caradoé.
Oui. Le Seigneur a fait un appel particulier ce matin à une femme africaine. Le Seigneur me montre que tu as vécu le déchirement de tes parents.